Mes bien chers frères, nous voilà une fois de plus rassemblés dans la patrie de Saint-Nicolas de Flux pour demander la protection, pour expier, pour demander la bénédiction à Dieu sur nous, sur vos familles, sur ce pays. Et certes, il est bien nécessaire aujourd'hui de demander la protection divine. Cette nuit, vous avez entendu plusieurs prédications qui vous décrivaient la situation actuelle, la situation du monde, et qui peut se résumer en un mot. Nous sommes en guerre. C'est une guerre invisible, une guerre qui ne touche non pas les corps, mais les âmes. Une guerre sans miséricorde, qui, au fond, a commencé avec la création même, avec la première révolte des anges contre Dieu, qui s'est continuée sur terre. Mais aujourd'hui, nous vivons l'une des batailles les plus décisives de cette guerre. Et au moment même, en ce moment, nous constatons que les ennemis de Dieu, les ennemis de l'Église, célèbrent avec beaucoup de faste 200 ans de révolution, une révolution malheureuse, terrible, qui a apporté tant de misère lorsque l'on considère les âmes. Cette révolution française est profondément anti-chrétienne, anti-catholique. Et nous voyons que les premières mesures qui ont été prises étaient précisément de séparer l'Église de l'État, d'enlever à l'État ce caractère catholique, de le priver de la protection divine, du doux joug de notre Seigneur, le Christ roi. Nous avons vu ensuite comment il s'est attaqué à tout, par la corruption des mœurs, par la corruption des idées. Et l'un des points les plus particuliers contre laquelle cette révolution s'est attaquée, eh bien, c'est la famille chrétienne. Et nous ne nous étonnons pas, avec le recul, de voir que toutes ces lois qui ont été publiées contre la famille, en fait, étaient programmées depuis bien longtemps. Loi sur le divorce, loi de l'avortement, toutes sortes de corruptions, corruption des mœurs, par les modes, par la télévision. Et nous constatons aussi qu'il n'y a pas une famille qui ne soit touchée par cette terrible guerre. Il n'est pas une seule famille qui ne compte ses morts ou ses blessés. Je parle de cette mort, la mort de la grâce. Ceux qui, les enfants qui vivent d'une manière bien désordonnée, par le concubinage ou d'autres sortes de corruption encore plus terribles, et toutes sortes de péchés, que ce soit la non-pratique ou autre. Oh oui, combien nous avons besoin de la protection divine aujourd'hui. Mais bien, chers frères, cette croisade se base sur une promesse divine, les promesses du Sacré-Cœur. Et nous devons bien sûr nous souvenir toujours que lorsque Dieu a promis quelque chose, il tient ses promesses. Nous entendons de sa bouche, de la bouche même du Sacré-Cœur, parlant à Sainte Marguerite Marie, que partout, toutes les maisons où son image, l'image du Sacré-Cœur, serait exposée, vénérée, eh bien, ces maisons seraient bénites. Il bénirait ces maisons d'une façon toute particulière. Nous apprenons aussi dans ses promesses que notre Seigneur promet la paix aux familles qui se dévoueront à ce culte tout spécial au Sacré-Cœur de Jésus. Il promet aussi consolation, bénédiction dans toutes les entreprises. Il promet les conversions aussi. C'est une dévotion si importante et tout spécialement sous cette forme de la dévotion de la famille entière au cœur sacré de Jésus comme roi. C'est un jeune prêtre péruvien qui était malade du cœur et qui faisait un voyage à Paray-le-Monial, nous pourrions presque dire pour préparer sa mort. Ses supérieurs pensaient qu'il ne pouvait plus rien faire. Et c'est pour ça qu'ils lui ont permis de faire un voyage en Europe. Le dessein de Dieu était bien différent. Au moment même où il s'agenouillait dans la basilique de Paray-le-Monial, il fut instantanément tout d'abord guéri. Et en même temps, il reçut une mission tout à fait spéciale du Sacré-Cœur. Cette mission, c'était de gagner, de regagner les familles au cœur sacré de Jésus. Et cette mission, cette croisade, s'appelle l'intronisation du cœur sacré de Jésus. Très vite, très vite, malgré les oppositions, beaucoup de familles se sont jointes à cette croisade. Et en quelques années, nous avons vu des centaines de milliers de familles joindre le mouvement. En moins de 15 ans, des nations entières se sont consacré au cœur sacré de Jésus, comme par exemple la Colombie, l'Espagne et bien d'autres. Commencé au début de ce siècle, béni d'une façon toute particulière par Saint Pie X, Benoît XV a dit aux missionnaires qu'il a commencé cette œuvre, dites au monde entier que votre œuvre je la fais mienne, que tout le monde sache que je veux cette croisade. Et même sans aucun doute, nous pouvons constater que l'encyclique Quas Primas de Pie XI, cette encyclique qui prêche bien haut et bien clair la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien que cette encyclique tire beaucoup de cette croisade. Mes bien chers frères, il y a un cérémonial tout particulier pour cette intronisation du Sacré-Cœur, une cérémonie qui a été dictée par l'Église, approuvée par l'Église, et qui consiste tout d'abord à introniser, c'est-à-dire à mettre à la place d'honneur une statue, une image du Sacré-Cœur, dans le salon, bien en vue, à la première place. Ensuite, toute la famille prie le credo, et ensuite l'acte de consécration au Sacré-Cœur, si possible en présence du prêtre. On pourrait résumer tous les devoirs, toutes les obligations de cette intronisation dans les mots de la Sainte Église que le prêtre prononce à la fin du canon. Per ipsum, cum ipso et in ipso, par lui, avec lui, en lui. Toute la vie de la famille se fait par notre Seigneur, par le roi, le Christ roi, le cœur sacré de Jésus, avec lui, en lui. Tous les événements de la journée de la famille lui sont présentés. Tout se fait vraiment sous son patronage. Et alors, nous voyons de la bouche, nous entendons de la bouche du Père Matthéo, quel miracle une telle intronisation peut produire. Trois petits exemples que je viens donner aussi en allemand. Tout d'abord, celui de ce père de famille qui ne pratiquait plus depuis bien longtemps et qui, à la demande de son épouse et de ses deux enfants, finalement, lui permit, pour le jour de son anniversaire, de faire l'intronisation. Lui-même s'est permis de s'abstenir, bien sûr, de cette cérémonie. Il a attendu dans une autre salle, plutôt qu'au salon. Et ensuite, il est venu. Il regarde l'image du Sacré-Cœur et il est troublé. Il baisse les yeux bien vite. Il sort, il quitte le salon. Après quelques instants, il revient et demande à son épouse, « Tu as permis à quelqu'un d'entrer. Il y a quelqu'un ici. Qui ? Et l'épouse, avec de faire venir les deux enfants et de lire et de réciter devant lui la prière de la consécration qui précisément invite le cœur sacré de Jésus à venir dans le foyer. Ce monsieur est secoué, il tombe à genoux et il se convertit sur le champ. Un autre exemple, celui d'un franc-maçon, bien haut, 33e degré, qui depuis plus de 50 ans avait fait le pacte avec le démon et qui refusait obstinément à sa fille cet acte d'intronisation. Et pour finir, pour avoir la paix, il lui a permis quand même. Et le Père Matteo était là, présent, lors de cette cérémonie. Une semaine plus tard, il s'est permis d'écrire une petite lettre à ce franc-maçon en lui disant « Cher monsieur, je vous remercie pour la cérémonie que vous avez permise il y a une semaine. Et maintenant, comme récompense, je vous invite à vous présenter chez moi ce soir à 5h pour vous confesser. » Et ce franc-maçon, lorsqu'il reçoit cette lettre, se cache dans sa chambre disant qu'il a quelque chose d'important à faire. Et à 5h, il est chez le Père Matteo. Il se confesse. Il lui donne ce pacte qu'il avait fait avec le démon qui était sur parchemin. Il demande à pouvoir faire sa première communion qu'il fera le lendemain. Et quelques jours plus tard, il ramènera même à l'église ses deux frères qui étaient tout aussi impénitents que lui, un de 71 ans et l'autre de 75 ans. Voilà quelques-unes des merveilles que le Sacré-Cœur réalise lorsqu'on lui fait confiance, lorsqu'on lui demande de prendre en fait sa place, qu'il prenne lui la place qui lui est due, la place du roi, roi de la famille. Une autre aussi histoire, celle d'une paroisse, un prêtre qui arrive dans une paroisse de 40 000 âmes et n'y trouve que 30 à 40 femmes qui font leur devoir pascal, c'est tout. Il consacre sa paroisse au Sacré-Cœur, il demande, il propage l'intronisation au cœur sacré de Jésus dans les familles, et en une année, eh bien, le résultat ne se fait pas attendre. 1700 communions journalières, quotidiennes. Voilà le résultat après un an. Eh bien, chers frères, nous vous invitons donc, vous tous, à vous consacrer, selon le cérémonial prévu, au cœur sacré de Jésus. Nous invitons à prendre connaissance de toutes ces règles et des obligations qui ne sont pas insurmontables, qui sont tout simplement de continuer et de vivre vraiment auprès du cœur sacré de Jésus comme s'il était l'ami de votre foyer, comme s'il était le roi, comme il est, comme il doit être le roi de vos familles. Et c'est par là que nous arriverons un jour à recristianiser la société. Il faut bien commencer par le commencement, et la famille, c'est bien la cellule première, le petit noyau qui forme la société. Il est inutile de penser à vouloir une société chrétienne si l'on ne commence pas par les familles chrétiennes. Et donc, dès cet automne, nous vous donnerons dans les différents prieurés plus de détails, nous commencerons cette intronisation qui réclame certainement une certaine préparation. Et une fois que vous aurez fait cette intronisation, mes bien chers frères, eh bien, ne manquez pas d'inviter d'autres familles à faire de même, même s'ils ne sont pas d'accord avec nous. N'hésitez pas et n'ayez pas peur, car à ce moment-là, vous travaillez pour le cœur sacré de Jésus. Vous travaillez même, j'allais dire, avec lui. Vous travaillez sous son commandement, lui qui peut toucher tous les cœurs. Ne vous laissez pas vaincre par le respect humain. Allez-y courageusement dans cette véritable croisade pour le cœur sacré de Jésus, pour sa royauté, afin que par là, beaucoup d'âmes soient sauvées, les vôtres, celles de vos enfants d'abord, celles de beaucoup d'autres, pour la plus grande gloire de Dieu et pour le triomphe de sa Sainte Église, ainsi soit-il.
Eh bien, chers frères, voici de nouveau, vous tous, de la Suisse romande, du Valais, ou si quelques-uns de l'Alsace ici réunis, ici à Flüeliranft, chez notre cher patron, pour prier tout simplement, pour expier. Et j'ai indiqué tout à l'heure ces trois intentions que je veux bien répéter pour vous. Nous voulons expier pour tous ces crimes, pour tous ces mépris de la volonté de Dieu, pour toutes ces injustices, pour tous ces péchés. Et deuxièmement, nous voulons prier pour les chrétiens au Liban qui sont cruellement et horriblement persécutés et tués. Et troisièmement, nous prions pour la famille chrétienne, pour nos jeunes familles chrétiennes. Et prenons, mes très bien chers fidèles, prenons comme exemple pendant cette nuit notre cher patron, comme exemple, comme modèle. Et prenons comme exemple, comme modèle aussi sa prière, cette belle prière, prière si courte mais si riche, que vous connaissez, vous tous. Mon Seigneur et mon Dieu, ôtez de moi tous ceux qui m'enchaînent d'aller vers vous. Mon Seigneur et mon Dieu, donnez tout à moi qui m'attire à vous. Mon Seigneur et mon Dieu, prenez-moi à moi et donnez-moi entièrement à vous. Cette prière si belle, si riche, qui résume tout, toute notre vie chrétienne, notre devoir. Et je vous invite, pourquoi pas, de faire pendant cette nuit un examen de conscience où nous nous demandons comment nous vivons selon ce programme, selon cette prière. Ôtez de moi tous ceux qui m'enchaînent d'aller à vous, qui me chaînent d'aller à vous. Et combien de choses, mes bien chers frères, combien de choses nous enchaînent d'aller vers Dieu, à Dieu, qui nous sommes un obstacle, des obstacles. Ça peut être l'argent, nos facultés, la richesse, le mammon, comme dit l'Évangile. Ça peut être la profession. Ça peut être la santé, pourquoi pas. Combien de petits dieux, comme dit saint Paul, qui nous semblent beaucoup plus précieux que Dieu, le Père éternel. Et il nous faut nous séparer de ces obstacles, de tous ceux qui nous enchaîne, qui nous chaîne d'aller vers Dieu. Et nous nous demandons la deuxième chose, le deuxième point, donner tout à moi qui nous conduise à Dieu. Bien sûr, ça c'est la grâce, les sacrements, la prière, la bénédiction de l'Église. Mais ça peut être aussi la croix, la maladie. Estimons, mes bien chers frères, cette valeur infinie de la croix. Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a sauvés par la croix. Nous serons sauvés par la croix. Si quelqu'un ne porte pas sa croix, il ne peut pas être mon disciple, dit le Seigneur. Et combien de fois, jour par jour, nous évitons cette croix si précieuse, si bénie de la bénédiction de Dieu. Donnez-nous tout. Donnez-moi tout ce, ça c'est avant tout la croix, mes bien chers frères. Et aussi la troisième chose, prenez-moi de moi, prenez-moi à moi et donnez-moi entièrement à vous. L'abnégation de soi-même. Qu'on ne vive plus pour soi-même, mais pour Dieu. Que Dieu habite en nous, qu'il est notre idéal, notre but, le centre de notre vie. Que cette prière nous soit exemple. Et faites, je vous invite, cet examen de conscience. Comment je pratique, je réalise cette prière. Qui était le programme, vous le savez, de notre cher patron, Saint Nicolas de Flue. Il n'a prié que le chapelet et cette prière. Il a médité cette prière. Faites-le aussi. Pendant cette nuit, où le Saint-Sacrement est exposé, et demandons notre patron, qu'il nous soit exemple, modèle, idéal, que nous imitions sa vie. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
À la demande de notre supérieur du district, j'aimerais vous présenter encore une fois les intentions de prière de cette nuit d'adoration et de pénitence. Premièrement, nous voulons faire expiation pour les innombrables malédictions lancées contre Dieu et les saints, le manque de piété et le désordre qui a été installé à la place de l'ordre divin. Tous ces péchés qui sont commis par les uns et les autres, mais surtout par les catholiques et par les nations et les sociétés du monde entier. Deuxièmement, nous voulons prier pour ceux qui sont poursuivis jusqu'à la mort et même martyrisés au Liban, les chrétiens du Liban, un peuple qui est détruit actuellement sous les yeux des puissants de ce monde qui ne font pas le nécessaire et leur devoir pour sauver ce peuple chrétien du Liban. Nous prions que Dieu veuille bien aider par sa puissance divine ces pauvres chrétiens et accepter leurs sacrifices, leurs souffrances pour l'Église et pour toute l'humanité. Troisième intention de prière, finalement, pour les familles chrétiennes, pour que les jeunes gens, les jeunes filles ne répugne pas de choisir le chemin, la voie du mariage chrétien, pour que nos jeunes filles, jeunes familles aient le courage de réaliser leur mariage d'après la volonté de Dieu et pour que ces familles chrétiennes puissent devenir un centre de pépinière pour les vocations et pour une société chrétienne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, vous le savez, ça aurait dû être M. l'abbé Philippe Lovet qui aurait dû célébrer la messe de minuit dans cette nuit de prière. Et malheureusement, il n'était pas possible qu'il nous rejoigne ici auprès de Saint-Nicolas de Flux à cause de la mort de son père qui est intervenue il y a 7 jours. Et justement, il célébrait le 7e. Et aussi à cause de quelques troubles de santé. Cependant, j'aimerais me faire l'écho de ce que M. l'abbé Philippe Lovet, jeune prêtre, aurait pu éventuellement vous dire, aurait voulu vous dire. En effet, le jour de son ordination, dimanche dernier, il avait l'occasion d'adresser quelques paroles aux fidèles qui l'entourait plus spécialement aussi pour le repas qui suivait l'ordination. Et il tenait à cœur de leur dire, et même de le répéter par 2 fois, « Priez pour que nous ne soyons pas des prêtres médiocres. » Et c'est bien, si l'on peut dire, le testament spirituel de Maître Lovet, d'heureuse mémoire, qu'il avait laissé à son fils qui était sur le point de devenir prêtre. Ne sois pas un prêtre médiocre. Si les prêtres ne doivent pas être médiocres, et d'ailleurs il en va tout de même pour tous les fidèles, eh bien c'est qu'ils doivent être des saints. Nous ne pouvons plus, de nos jours, nous permettre d'avoir des prêtres médiocres et des fidèles médiocres, puisque c'est bien cela, cette malheureuse médiocrité qui a amené la chrétienté dans l'laps de quelques années, quelques dizaines d'années, à la situation que nous vivons actuellement, situation d'oubli de Dieu. Pas de prêtres, pas de fidèles médiocres, mais de saints prêtres et de saints fidèles. Il me semble que nous rejoignions bien ici, avec cette demande du nouveau prêtre, ce que notre supérieur général vous a présenté cette nuit à la messe de 9h dans son serment sur le baptême. Puisque dans le baptême, justement, ce germe de la sainteté nous est donné. C'est un don que nous pouvons jamais assez apprécier. Un don qui ne connaît pas de plus précieux, la sainteté. La vie de Dieu en nous, qui nous est donnée, mais justement, cette vie, cette sainteté, nous est donné comme dans un germe qui doit encore croître, qui doit devenir une plante, un arbre. Nous avons tout dans ce germe, mais il s'agit de le développer pour faire éclore toutes ces vertus de la sainteté, la vie de Dieu en nous, pour pouvoir porter les fruits que Dieu nous demande. Nous demande de porter à son exemple même. Et nous savons qu'il avait dit aux apôtres qu'ils pourraient encore réaliser des fruits plus merveilleux que lui-même il avait opéré parmi les gens, parmi les Juifs de la Terre Sainte. Si nous ne devons pas être médiocres, nous devons être saints. Qu'est-ce que c'est que la sainteté? Si nous avons recours à ce théologien par excellence de la Sainte Église, saint Thomas d'Aquin, si nous cherchons dans sa somme théologique ce qu'il nous dit à propos de la sainteté, il nous explique que ce terme sanctus, saint, vient être inspiré de deux côtés, qui peut signifier d'une part la pureté. Celui qui est saint est tout pur, immaculé, si l'on peut dire. Et d'autre part, la sainteté implique une fermeté. En effet, une loi qui est portée, elle est ferme. Et c'est cette fermeté que le terme de saint veut insinuer. Rester immuable dans la bonté, dans la vérité. Donc, premièrement, le saint est pur. Et à ce propos, saint Thomas nous dit que le terme latin sanctus est voisin de ce terme ou est tiré, peut-être, d'après certains interprètes, des mots sanguine tinctus. Sanctus est sanguine tinctus. Celui qui est trempé dans le sang. Nous venons de chanter l'asperges. Asperges me domine hisopo et mundabor. Aspergez-moi, Seigneur, avec l'hysope et je serai purifié. Lavabis me et super nivem de albabor. Lavez-moi et je serai plus blanc que la neige. Ces versets sont tirés de l'Ancien Testament et font allusion à la liturgie de l'Ancienne Alliance où les prêtres prenaient un rameau d'hysope, qui est une plante, le mettaient dans le sang du bœuf ou de l'agneau qui était tué et en aspergeait le peuple choisi, le peuple d'Israël. Et cela était un rite de purification qui d'ailleurs était prescrit par Dieu qui lui-même avait établi ces cérémonies de l'Ancien Testament, comme vous le savez bien. Le peuple est aspergé du sang et cela signifie une purification. Voyez-vous, nous sommes ici dans un domaine qui touche au surnaturel, un domaine mystique. Et là, les mêmes règles que dans la vie naturelle ne valent plus. D'aucuns pourraient dire qu'être aspergé par le sang, cela provoque plutôt des taches que la pureté. Mais non. Dans l'action mystérieuse, l'opération mystérieuse de Dieu, cela signifie la purification. Puisque justement, le sang qui est versé, justement, implique une pureté, quelque chose de saint, le sang qui est versé en l'honneur de Dieu. Mais les extrêmes se touchent, le sang qui est versé injustement implique un crime, et celui qui le commet est pollué. Mais ce n'est pas que l'Ancien Testament qui nous parle de cette purification par le sang, Si nous parcourons les Saintes Écritures pour nous arrêter au tout dernier livre du Nouveau Testament, l'Apocalypse de Saint Jean, et si nous cherchons dans le tout dernier chapitre 22e, parmi les derniers versets de ce magnifique livre qu'est l'Apocalypse, nous lisons cette phrase comme dernière monition à ceux auquel est révélée cette révélation divine, Beati qui lavant stola suas in sanguine anis. Bienheureux ceux qui lavent leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Quelle phrase mystérieuse! Bienheureux ceux qui lavent leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Or, vous avez tous compris de quel agneau il s'agit. Bien entendu, il s'agit du Christ lui-même, de notre Sauveur, qui s'est fait un agneau d'immolation et qui a versé son sang pour nous racheter du péché, justement pour nous purifier de la lèpre du péché, pour nous sanctifier. Le rite de baptême prévoit la remise d'un vêtement blanc à celui qui est baptisé, avec la monition que celui qui a reçu ce premier et très important sacrement doit le garder pur, ce vêtement. Or, ce vêtement, bien entendu, c'est son âme. Il doit la garder pure, immaculé du péché. Et si par malheur il lui arrivait un péché, une tache sur ce vêtement blanc de son âme, le Christ maintenant lui donne la possibilité de tremper son vêtement, son âme, dans le sang de l'agneau, qui est son propre sang, pour la purifier de nouveau. C'est le sang du Christ qui nous purifie. Mais prenons bien garde, mes bien chers frères, il ne pourra évidemment suffire de boire son sang dans la Sainte Communion en recevant le corps et le sang du Christ dans l'hostie. Cela ne pourra suffire. Celui qui participe à l'action de verser le sang, donc au sacrifice, l'immolation, il ne peut se contenter d'avoir part aux fruits, mais il devra aussi, comme le Christ l'a demandé, participer à tout le sacrifice et ainsi avoir part aux souffrances qui sont une cause sans laquelle le sacrifice ne peut avoir lieu. Les souffrances du Christ auxquelles nous sommes invités, nous devons avoir part, si nous voulons avoir part aux fruits du sang du Christ qui nous purifiera. Et c'est là, justement, le point qui nous est si dur, si difficile. C'est si facile de venir communier, même souvent, même tous les jours, et de croire qu'ainsi, le Christ certainement nous sera propice. Prenons garde, mes bien chers frères, faisons attention, ce n'est pas si facile que cela. Si nous avons la grâce de pouvoir communier souvent, nous avons par là aussi l'obligation de participer aux souffrances du Christ dans la même mesure. Et alors seulement, le sang de l'agneau de Dieu pourra nous purifier. Ces souffrances, vous le savez, peuvent se présenter de différentes manières dans notre vie journalière, et on ne pourrait finir d'énumérer toutes les différentes possibilités comment participer à ces souffrances du Christ. Pour chacun, cela se présente d'une autre manière. Que cela tienne à sa propre personne, à ses défauts de caractère, que cela tienne à ceux qui l'entourent, à son travail, à des tentations qui le tourmentent, etc., etc. Mais nous devons avoir part à cette souffrance. Il n'y a pas d'autre voie, mes frères. Premièrement, la pureté. Deuxièmement, la fermeté. Sanctus, sanctitus, cela signifie sanctionner. Une loi sanctionnée est une loi qui a force d'obligation. Justement, nous avons pris sur nous cette obligation du baptême et il s'agit de la tenir fermement. Donc, de permettre à ce germe de la sainteté et de la vie divine en nous de se développer et de devenir une plante, un arbre par exemple. Et cet arbre, il sera secoué par des tempêtes. Oui, la providence divine permet qu'il y ait des tempêtes et des fois terribles qui viennent secouer les âmes qui ont tâché de développer cette vie divine vers la sainteté. Une tempête est une épreuve, mais en même temps, la tempête contribuera à fortifier cet arbre, puisqu'un arbre qui est souvent secoué, il sera obligé de pousser plus loin et plus profondément ses racines pour qu'il ne puisse jamais être déraciné par les tempêtes provoquées par le démon. La sainteté est donc pureté et fermeté. Fermeté dans la volonté qui doit devenir de plus en plus semblable à la volonté de Dieu. Donc cette fermeté ne pourra se contenter d'appliquer ce que l'on demandera à un chrétien ordinaire. Alors, nous resterions justement dans cette médiocrité que nous devons éviter à tout prix, que nous ne pouvons permettre de continuer. Puisqu'avec la médiocrité, nous ne convertirons jamais le monde et nous ne pourrons jamais sauver la chrétienté. Non, cette fermeté nous demandera plus. Cette pureté devra être plus pure que ce que l'on entend communément par une vie chrétienne. Le degré de sainteté correspondra à la mesure d'égalité entre notre volonté et la volonté de Dieu. C'est tout simple, mes bien chers frères, tout simple à dire, bien entendu. Le degré de sainteté correspondra à la mesure d'égalité de notre volonté à la volonté de Dieu. Là-dedans, tout est compris. Il s'agit de l'appliquer. Dans le concret, qu'est-ce que cela signifiera? Vous pratiquez peut-être des petites pénitences. Cela est très bien. Et en même temps, vous n'êtes pas prêt à pardonner à votre frère qui vous a peut-être blessé un petit peu. Vous gardez cette susceptibilité qui fait tant de tort? Eh bien non. Dans le concret, vous continuerez avec vos petits sacrifices, peut-être, mais surtout, vous corrigerez votre défaut de susceptibilité. Vous avez une facilité à trouver de bonnes paroles, consoler, exhorter les autres, et en même temps, vous refusez de parler à l'un ou l'autre pour lequel vous n'avez pas de sympathie, auquel vous reprochez peut-être ceci et cela, que votre imagination a grandi, alors vous êtes encore loin de la sainteté. Il faut corriger votre défaut. Vous êtes pieux. Vous connaissez beaucoup de pratiques de dévotion. Mais vous attachez à certaines formes de piété qui ne sont peut-être pas les formes de piété de l'Église, qui sont plutôt marquées par une certaine singularité, inspirée peut-être par des révélations privées plutôt douteuses. Vous y attachez et vous n'êtes pas prêt à faire comme l'Église vous demande de faire. Eh bien, vous n'arriverez pas à la sainteté. Vous faites peut-être de bonnes œuvres. Vous visitez des malades. Vous soignez des personnes âgées. Cela est fort bien. Vraiment de bonnes œuvres. Et en même temps, vous avez un petit mépris pour ceux qui n'en font pas autant. Pour ceux qui ne pratiquent pas si régulièrement la sainte religion, eh bien, vous êtes encore loin de cette sainteté qui vous est demandée, puisque votre volonté ne correspond pas encore bien à la volonté de Dieu. Vous pouvez entreprendre beaucoup de choses. Mais aussi longtemps que vos œuvres ne seront pas imprégnées d'un esprit surnaturel, cela ne vous avancera pas dans la voie de la sainteté. Puisque le risque de vous éloigner de la volonté de Dieu est beaucoup trop grand. Mes bien chers frères, faisons attention à cette médiocrité qui s'installe si facilement. Prenons un autre élan, demandons à Dieu cette grâce d'avoir la ferveur de la sainteté, d'exciter en nous de nouveau cette soif de la vie de Dieu en nous. Et puis, prions pour que cette médiocrité maudite ne puisse s'installer ni en notre cœur de chacun, ni dans les cœurs des prêtres. C'est bien la demande de M. l'abbé Lovet, prier pour que nous ne soyons pas des prêtres médiocres, comme nous prierons pour que vous ne soyez pas des fidèles médiocres. Et justement, si vous tendez vers cette sainteté, si vous efforcez d'égaler de plus en plus votre volonté à la volonté de Dieu, alors votre prière pour les bons prêtres sera bonne et elle sera exaucée, ainsi soit-il.